Bien, eh bien, je vous remercie d'être présent ce soir pour accueillir avec nous donc Colette Lelay, qui nous vient en fait du Centre François Viette d'Histoire des Sciences de Nantes. Et ce soir, l'idée qu'il y a eu au travers de cette conférence, c'est d'aborder la notion de nouvelle planète et la notion de recherche de vie dans l'univers, même si on ne va pas tout aborder ce soir, mais c'est un cycle qui débute donc ce soir, qui aurait dû débuter il y a un mois, malheureusement, Fabien Locher a eu des petits soucis de santé, donc sa conférence sur la découverte de Neptune va être reportée en 2012. Et ce soir, donc, on va commencer par une conférence, donc Histoire des sciences et de l'astronomie, en collaboration en fait avec Anne Bonnefoy, qui est responsable d'Histoire des sciences ici à Mendès-France. Et l'idée, donc, c'est de présenter comment, dans la littérature du XVIIIe et XIXe siècle, on percevait la vie sur les autres planètes du système solaire. Et en ayant vu cette vision-là, eh bien plus tard, eh bien ça nous permettra de voir comment on peut penser la vie en dehors du système solaire. Mais ça, donc, comme je le disais, je le réserve pour des dates prochaines. Donc, je remercie Colette Lelay d'être présente là ce soir. Alors, pendant l'intervention, si vous souhaitez poser des questions, intervenir, il ne faut pas hésiter, hein, Madame Lelay le permet. Mais bien sûr, à la fin de l'intervention, là aussi, vous aurez la parole. Et si vous souhaitez avoir des grands compléments, des renseignements sur ce sujet-là, ce sera avec plaisir qu'on essaiera d'y répondre. Voilà. Donc, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Est-ce que vous m'entendez là? Ça va? Il marche? Je crois qu'il marche. Il marche? C'est mieux? Comme vous l'a dit Eric, n'hésitez surtout pas à me poser des questions concernant cet exposé que j'ai bâti pour vous. Hein, donc, je l'ai fait pour Poitiers. Ah oui, c'est plus fort là. Et donc, je ne le connais pas par cœur, parce que c'est la première fois que je le fais. N'hésitez pas à m'interrompre si ce que je dis n'est pas clair. Donc, je suis plutôt spécialiste de la vulgarisation de l'astronomie au XVIIIe et au XIXe siècle. Donc, je vais surtout vous parler du XVIIIe et du XIXe siècle. Mais pour vous parler du XVIIIe et du XIXe siècle, je vais être obligée de dresser une petite fresque chronologique pour voir ce qui s'est passé avant. Et donc, on va partir de l'Antiquité, on va regarder comment, selon l'arrière-plan culturel, l'arrière-plan scientifique de la période, on va concevoir cette idée de pluralité des mondes ou de planètes habitées, si vous préférez. Alors, je voulais vous dire qu'un historien des sciences se refuse de porter un jugement sur les personnes dont il parle. Donc, on ne dit pas, vous allez voir, quelquefois, vous allez vous dire, mais ce personnage-là, il est complètement farfelu. Jamais un historien des sciences ne dit, ce personnage est complètement farfelu. Il faut le resituer dans son contexte. Donc, essayez de faire cette gymnastique, de resituer toutes les personnes dont on va parler dans leur contexte scientifique et intellectuel. D'accord? Voilà. Donc, les deux personnages phares de mon étude, comme vous allez le constater, sont Fontenelle pour le XVIIIe siècle et Camille Flammarion pour le XIXe siècle. Alors, si j'avais fait un joli exposé comme il se doit, il y aurait eu trois parties. Je suis désolée, il y en a neuf. Mais bon, je pense que vous m'en voudrez pas et je vais essayer de bien scander les parties. Et donc, si vous perdez le fil, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, les flèches, est-ce que voilà. Donc, nous allons démarrer avant Copernic. Et nous allons démarrer par un personnage, Épicure, qui fait partie d'un courant philosophique grec qu'on appelle les atomistes. Et donc, les atomistes vont donner leur lettre de noblesse à l'idée de pluralité des mondes. Alors évidemment, il faut faire très très attention. L'idée d'atome chez les atomistes, ça n'a rien à voir avec les atomes, avec le mot qu'on utilise aujourd'hui. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, d'abord parce que j'y connais pas grand-chose, et en plus parce que ce n'est pas l'objet. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que pour eux, il y a deux principes. Il y a un premier principe, c'est que tout est atome et que les atomes sont en nombre infini. Et en dehors des atomes, il y a un autre principe qui est le vide. Donc, les atomes se déplacent dans le vide. Et alors, Épicure écrit à Hérodote la chose suivante, qui est sur la citation. Mais en outre, les mondes, eux aussi, sont illimités en nombre, ceux qui sont semblables aux nôtres, comme ceux qui sont dissemblables. Donc, chez Épicure, chez les atomistes grecs, on pense déjà à l'infinité des mondes. Épicure va avoir un disciple bien connu qui est Lucrèce. Lucrèce, il vit, alors vous avez vu que Épicure c'est très ancien, hein. Lucrèce, lui, vit au 1er siècle avant notre ère. Et Lucrèce va rédiger un poème, De Natura Rerum, dont vous avez sans doute entendu parler. Hein. Et donc dans ce poème, sur la nature en général, il va écrire un certain nombre de choses sur la pluralité des mondes. Là, je vous ai mis trois citations extraites de De Natura Rerum. Donc première citation, c'est pourquoi je te le dis encore et encore, tu dois admettre qu'il existe ailleurs d'autres rassemblements de matière, comme est ce monde-ci, que l'éther étreint dans un embrasement avide. Il faut bien admettre qu'il existe d'autres terres et des races d'humains différentes et d'autres espèces de bêtes sauvages. C'est pourquoi il faut reconnaître que pour la même raison, le ciel, la terre, le soleil, la lune, la mer et tout ce qui existe, loin d'être unique, sont plutôt d'un nombre innombrable. Donc, pour Lucrèce, l'infinité des mondes, c'est une évidence. Et il se trouve que Lucrèce va être redécouvert, parce que ses écrits ont été perdus pendant une longue période, et Lucrèce va être redécouvert en 1417, en pleine Renaissance. Et l'impact de ce poème De Natura Rerum va être considérable. On en reparlera tout à l'heure quand on va parler de la Renaissance. Mais tous les Grecs ne pensent pas à l'infinité des mondes. En particulier, il y a un Grec fondamental qui est Aristote, pour lequel, qui n'est absolument pas du tout d'accord avec Épicure, puisqu'il écrit que non seulement le ciel soit un, mais qu'il soit impossible qu'il y en ait un jour plusieurs, et de plus qu'il soit éternel du fait qu'il est incorruptible et ingénéré, disons-le. Donc pour Aristote, il y a un seul monde, le nôtre. Et comme vous le savez sûrement, la physique d'Aristote va avoir une longue postérité. Elle va être transmise au Moyen-Âge, par l'intermédiaire des Arabes tout d'abord, et puis elle va être traduite en latin par Gérard de Crémone en 1170. Et aussitôt que l'œuvre d'Aristote va être traduite en latin, elle va donner lieu à de multiples commentaires et critiques et discussions de cette thèse d'Aristote, en particulier dans les universités qui sont en train de se créer à ce moment-là, la Sorbonne, bien entendu, Oxford, qui se crée à peu près au même moment. Et là, donc, voici des personnages qui travaillent dans ces universités. Bien évidemment, Thomas d'Aquin, qui va faire une synthèse entre la physique d'Aristote et la théologie, qui va perdurer pendant de nombreux siècles. Mais aussi Guillaume d'Ockham, qui, lui, travaille en Angleterre et qui va commencer à critiquer les thèses d'Aristote. Donc, Guillaume d'Ockham pense que il y a d'autres mondes et que le fait qu'il y ait d'autres mondes prouve l'omnipotence de Dieu. Donc il y a un débat à ce sujet. Est-ce que Dieu aurait toléré d'autres mondes? Et Guillaume d'Ockham dit oui, parce que puisqu'il est omnipotent, il peut avoir créé de nombreux mondes. Nicole Aurem, en France, pense la même chose. Enfin, il pense la même chose, il dit que c'est envisageable, mais pour lui, il n'y croit pas vraiment. Donc il y a des grands débats chez les savants du Moyen-Âge pour savoir si la toute-puissance de Dieu justifie qu'il ait accepté qu'il y ait plusieurs mondes ou bien si Dieu a considéré qu'un seul monde suffisait. Et la clé de ces controverses vont aller jusqu'à un personnage fondamental qui est Nicolas de Cuse, qui marque le passage entre le Moyen-Âge et la Renaissance. C'est encore un homme d'Église. Et lui, il écrit « On peut supposer que dans la région du soleil, il existe des êtres solaires, des habitants à l'esprit brillant et éclairé, plus spirituels par nature que ceux qui pourraient habiter la lune, lesquels sont peut-être lunatiques, tandis que les habitants de la terre sont plus grossiers. » Donc vous voyez chez Nicolas de Cuse, nous sommes à la Renaissance et on voit chez lui l'impact de Lucrèce. Comme Lucrèce, il pense qu'il y a une pluralité des mondes, qu'il y a des habitants ailleurs que sur notre terre. Alors là, maintenant, on va arriver à une nouvelle donne, deuxième partie, Copernic. Donc, sur Copernic, il y a encore quelques images d'Épinal, c'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui écrivent que Copernic est arrivé dans un Occident obscurantiste. Tout le monde, alors il y a des gens qui croient encore que le Moyen-Âge pensait que la Terre était plate. Il n'y a pas de terre plate dans le Moyen-Âge occidental. Chez les savants, on sait très bien que la terre est ronde, il n'y a aucun problème à ce sujet. Donc le Moyen-Âge n'est pas du tout obscurantiste. Comme vous avez pu le voir, il y a de longues discussions sur la physique d'Aristote. Donc le Moyen-Âge n'est pas obscurantiste. Une autre idée fausse qui a cours aussi, c'est que, heureusement que Copernic est arrivé, parce que le système de Ptolémée, c'était une catastrophe. Ça, c'est aussi une idée complètement fausse, parce que, comme beaucoup d'entre vous le savent sans doute, le système de Ptolémée est extrêmement performant. C'est quelque chose qui marche très très bien et qui continue à très bien marcher. Il y a beaucoup de situations où on va adopter une position centrée sur la Terre parce que c'est beaucoup plus facile d'expliquer les phénomènes. Donc le système de Ptolémée est un système très performant, très très bien fait, qui fournit de très bonnes tables, et c'est pour ça qu'il a duré pendant des siècles. Donc quand Copernic arrive, il y a un système qui fonctionne bien. Lui, il propose un nouveau système. Bon, ça ne diminue, je ne cherche pas du tout à diminuer le mérite de Copernic. Copernic, c'est vraiment une révolution dans la pensée. Mais il s'est mis, comme dit Galilée, il s'est mis sur les épaules des géants qui l'avaient précédé. Avant lui, il y avait des tas de gens qui avaient pensé des choses très très importantes qui l'ont aidé à concevoir son système. Alors, c'est quand même une révolution, car la Terre, jusque-là, était le centre de l'univers, et tout d'un coup, elle est délogée du centre de l'univers et elle devient une planète comme les autres. Et donc, puisque la Terre porte des habitants, pourquoi est-ce que les autres planètes ne porteraient pas d'habitants? Il n'y a pas de raison. Donc, on va glisser de la Terre à des habitants, les autres planètes ont des habitants. Notamment, un astre qui est très très proche de la Terre, le plus proche, c'est la Lune. Donc, peut-être que la Lune a des habitants. D'autant que, avec l'invention de la lunette, on s'est aperçu que la Lune, qu'Aristote prétendait incorruptible, eh bien, en réalité, la Lune, elle présente une surface qui ressemble beaucoup à la surface de la Terre. Elle a aussi des creux et des bosses, comme nous. Donc, elle est sœur de la Terre, et donc, puisqu'elle est sœur de la Terre, pourquoi n'aurait-elle pas d'habitants? C'est ce que pense Kepler. Le grand astronome Kepler écrit: il existe sûrement sur la Lune des créatures vivantes dont le corps est bien plus grand et le tempérament plus âpre que le nôtre, car s'il en est qui vivent là-bas, leurs jours sont longs comme 15 des nôtres et ils souffrent aussi bien de la chaleur indescriptible que des rayons verticaux du soleil. Donc c'est ce que pense Kepler. À la même époque, ça n'est pas ce que pense Galilée. Galilée écrit: peut-il sur la Lune ou une autre planète s'engendrer des herbes, des plantes ou des animaux semblables aux nôtres? Je n'en sais rien et ne le crois pas. Je crois encore moins qu'elle soit habitée par des hommes. Parce qu'il ne faut pas oublier que Galilée, même s'il cherche à séparer les sphères d'influence de la science et de la religion, reste un homme profondément croyant. Et donc là, il fait acte de foi. Je ne crois pas. Alors, la présence d'hommes sur la Lune pose un gros problème, et sur les autres planètes a fortiori, pose un gros problème aux hommes d'Église. C'est le problème de la rédemption, du ministère de la rédemption et de l'incarnation. Puisque Jésus-Christ est venu sur la seule terre pour sauver les seuls hommes. Donc si on admet qu'il y a des habitants sur les autres planètes, sont-ce des hommes? Est-ce que Jésus-Christ est venu pour les sauver aussi? Ça pose un gros problème. Et Giordano Bruno, que tout le monde connaît, puisque vous savez tous qu'il a péri brûlé vif en 1600, lui, il va encore plus loin que Copernic, puisque chez Copernic, l'univers est fini, et Giordano Bruno, lui, va décréter que l'univers est infini, c'est-à-dire il va retourner aux sources grecques ou aux sources Nicolas de Cuse, il va dire l'univers est infini. Alors, là aussi, il y a des légendes, on dit que Giordano Bruno est mort, a été brûlé à cause du système de Copernic. En réalité, c'est pas vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il avait des tas d'idées révolutionnaires dans beaucoup de sur beaucoup de sujets, mais c'est sûr que le fait de penser que l'univers était infini, ça ne l'a pas aidé. Ça ne l'a pas aidé dans son procès. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ce qui se passe autour de Copernic, donc les descendants immédiats de Copernic, c'est-à-dire Kepler et Galilée. J'en arrive aux Français, Descartes, et à ses tourbillons. Donc, c'est un nouveau déplacement de perspective parce que le système de Copernic donc, engendrait une réflexion sur la similarité qui existe entre la Terre et les autres planètes. Descartes, lui, va engendrer une réflexion sur la similarité entre le Soleil et les autres étoiles. Et donc, le mot « Soleil », qui jusque-là était un mot singulier, il n'y avait qu'un seul Soleil, le nôtre, devient pluriel. Il y a les autres soleils. Et donc, en particulier, Fontenelle va introduire, à plusieurs reprises dans son ouvrage, je vous en parlerai tout à l'heure, le vocable « les autres soleils ». Alors, Descartes, il a été très, très échaudé par l'affaire Galilée. Il a eu très, très peur. Il avait préparé un manuscrit qui s'appelait le Traité du Monde. Et quand il a vu le procès de Galilée, il a mis son Traité du Monde dans les placards et il s'est dit, on va attendre qu'il fasse meilleur hein, sur notre planète avant de sortir de ce Traité du Monde. Et Descartes, il est toujours très fidèle à sa méthode. Et donc, il écrit la chose suivante. Et bien que je n'infère point pour cela qu'il y ait des créatures intelligentes dans les étoiles ou ailleurs, je ne vois pas aussi qu'il y ait aucune raison par laquelle on puisse prouver qu'il n'y en ait point. Mais je laisse toujours indécises les questions qui sont de cette sorte, plutôt que d'en rien nier ou assurer. Donc vous voyez, grande prudence, hein, on applique la méthode, on ne sait pas, on ne peut pas prouver, donc bon, voilà. Alors, à la même période que Descartes, on va voir surgir des fantaisies. C'est mon quatrième point. Donc, une fantaisie anglaise qui s'appelle « The Man in the Moon » qui va être rédigée par un évêque anglican, hein, l'Église anglaise est séparée hein, de notre Église, qui s'appelle Francis Godwin et qui vit entre 1562 et 1633. Et son ouvrage va paraître à titre posthume en 1638. Et donc, le héros, comme vous pouvez le constater, enfin, l'illustration est assez mauvaise, mais enfin, vous pouvez quand même voir que le héros se rend sur la Lune à l'aide d'un vol d'oies sauvages. Est-ce que vous voyez les oies sauvages? Oui, c'est bon? Donc, le héros se rend sur la Lune à l'aide d'un vol d'oies sauvages. Et deux décennies plus tard, en France, à droite, vous avez l'illustration d'un ouvrage qui paraît également à titre posthume, deux ans après la mort de l'auteur, c'est l'ouvrage de Cyrano de Bergerac qui s'appelle « État et empire de la Lune ». Alors, chez Cyrano de Bergerac, le moyen de locomotion est différent. Il ne s'agit pas d'oies sauvages, mais comme vous pouvez le constater à la ceinture du personnage, ce sont des fioles de rosée. Donc c'est grâce à des fioles de rosée qu'il va s'élever dans les airs et qu'il va parvenir jusqu'à la Lune. Alors, le propos des deux auteurs, ce que j'ai oublié de dire, c'est que Cyrano de Bergerac, quand il écrit, connaît parfaitement l'œuvre de Francis Godwin, et il s'en inspire, puisque son personnage va rencontrer le personnage de Francis Godwin sur la Lune. Donc, il y a des échanges entre les deux. Mais ils ont un objectif complètement différent. C'est-à-dire que Francis Godwin a pour objectif de montrer le système de Copernic, de vulgariser le système de Copernic. C'est son objectif. Tandis que Cyrano de Bergerac, ce n'est pas du tout le même objectif. Cyrano de Bergerac va sur la Lune, en fait, pour mener une critique contre la société de son temps. Donc, tous les défauts qu'il constate dans la société de son temps, il les transfère à la Lune, et ça lui permet de faire une satire de la société de son temps en déplaçant le phénomène sur la Lune. Donc ce sont deux fantaisies complètement différentes, même s'il y a des parentés. Alors, on considère souvent que ces deux fantaisies et d'autres qui surgissent à la même époque sont les premiers jalons dans l'histoire de ce qu'on appellera par la suite la science-fiction. Mais je précise tout de suite que je ne suis absolument pas une spécialiste de science-fiction et que si vous avez des questions à ce sujet, il faudra attendre un intervenant plus performant. Ça va pour l'instant ? Ce que je raconte, c'est à peu près clair ? Oui ? Vous n'hésitez pas. Hein. Bon, donc, on va passer à un personnage suivant, avec une très belle perruque, comme vous pouvez le constater, qui est Christian Huygens. Alors, Christian Huygens est hollandais. C'est un astronome de renom. Vous en avez sans doute entendu parler. Et vous savez sans doute qu'il a accompli l'essentiel de sa carrière à Paris, où il a été appelé par Colbert. Colbert, grand ministre, qui a beaucoup fait pour l'astronomie, puisque c'est à lui qu'on doit l'Observatoire de Paris. Et donc Colbert appelle Huygens quand on crée l'Observatoire de Paris, en lui proposant de venir y travailler, et de travailler aussi dans l'Académie des sciences que Colbert a aussi créée. Donc Huygens vient et il découvre l'anneau de Saturne. On avait observé, comme vous le savez sans doute, on avait observé que Saturne avait une drôle de configuration, donc Galilée parlait de danse, et puis Huygens va prouver qu'il s'agit en réalité d'un anneau. Et il va acquérir la célébrité à partir du moment où il a réussi à mettre en évidence l'anneau de Saturne. Donc c'est un astronome très très connu. Malheureusement, Colbert meurt. Et après Colbert, c'est le ministre qui vient après Colbert, c'est Louvois. Et Louvois n'est pas du tout intéressé par la science. Donc il ne renouvelle pas le contrat de Christian Huygens. Et Christian Huygens, il est obligé de retourner dans son pays natal, c'est-à-dire les Pays-Bas, où il va mourir. Et donc c'est là, aux Pays-Bas, qu'il va rédiger cet ouvrage sur lequel on va parler un petit peu, qui s'appelle Cosmotéoros. Et il va le rédiger, il va être publié, après la mort de Christian Huygens. Comme vous pouvez le voir sur la diapo, il est mort en 1695, et Cosmotéoros est paru en 1698. Mais il l'a sans doute rédigé une dizaine d'années avant. Sans doute aux alentours de 1686, par là. Et Huygens va rédiger cet ouvrage en latin, parce qu'il considère que c'est un ouvrage savant. Donc rien à voir avec les fantaisies de tout à l'heure. C'est un ouvrage savant. Alors pour Huygens, il y a trois étapes. Première étape, il n'est pas possible, mon cher frère, qu'un adepte de Copernic, considérant la Terre que nous habitons comme une des planètes en mouvement autour du Soleil, et recevant de lui toute leur lumière, ne se figure parfois qu'il n'est pas déraisonnable d'admettre que, de même que notre globe, les autres ne soient pas dépourvus de culture et de parure, ni peut-être d'habitants. Alors il y a beaucoup de négations, mais enfin vous avez compris quand même qu'à la fin de toutes ces négations, il veut dire que les autres planètes ont peut-être des habitants. Donc ça c'est le premier étage, c'est l'étage qu'on a vu déjà à plusieurs reprises, qui résulte immédiatement de Copernic. Avant le deuxième étage, Huygens a beaucoup observé la Lune. Et contrairement à Kepler, il pense que la Lune est, je cite, « un sol aride dépourvu de toute eau ». Donc pour lui, il n'y a pas d'habitants sur la Lune. Donc la Lune, le sort est réglé. En revanche, il est convaincu de l'existence de Mercuriens. Il y a des Mercuriens, il y a des Jupitériens, il y a des Saturniens. Donc il y a des habitants sur la plupart des planètes, mais pas sur la Lune. Alors, il va créer une nouvelle branche de l'astronomie qu'on va appeler par la suite l'astronomie comparée. C'est-à-dire, il va comparer les conditions de vie sur les différentes planètes. Comment vit-on sur Mercure, comment vit-on sur Jupiter, selon la durée du jour, puisque les durées de jour sont différentes d'une planète à l'autre, selon les saisons qui résultent de l'inclinaison ou de la non-inclinaison de l'axe de rotation de la planète, selon la lumière que la planète reçoit du Soleil, si elle est proche ou loin du Soleil. Donc par rapport à tous ces paramètres-là, on va avoir des planètes sur lesquelles on va avoir une vie complètement différente. Étage suivant, les étoiles, comme l'a dit Descartes, les étoiles brillent d'une lumière propre et sont disséminées dans l'espace. Donc, je cite, « Rien n'empêche donc désormais de considérer ces étoiles comme autant de Soleil, ce que faisait Descartes avant lui. » Et dernier étage, car qu'est-ce qui empêche maintenant de penser que chacune des étoiles ou soleil a des planètes autour de lui, tout comme le nôtre, et que ces planètes, à leur tour, sont pourvues de lune ? Donc, on est passé petit à petit de « les planètes du système solaire sont habitées » à « eh bien maintenant, il y a des soleils partout, les soleils ont un cortège de planètes et toutes les planètes sont habitées ». Alors, le traducteur de Huygens, son ouvrage est traduit en français. Là, les citations que j'ai données sont des citations de la traduction française. Le traducteur français utilise le terme, pour les habitants, il les appelle des planéticoles. Donc, tous les habitants des planètes sont des planéticoles. Je trouve ce mot très, très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, Huygens se sent libre d'imaginer la vie des planéticoles, etc., mais il garde toujours son imagination sous contrôle, parce qu'il n'oublie jamais qu'il est avant tout un homme de science. Et donc, tout ce qu'il va dire, il va essayer de le justifier, de le démontrer. En particulier, comme je vous l'ai dit, les conditions différentes de vie des planètes s'appuient sur des observations, s'appuient sur la durée du jour, s'appuient sur l'orientation de l'axe, etc., etc. Voilà. Alors, je vais maintenant arriver à un personnage, à un de mes personnages phares, qui est Fontenelle, et à un des ouvrages sur lesquels je veux beaucoup insister, qui est « Les entretiens sur la pluralité des mondes ». Donc, « Les entretiens sur la pluralité des mondes », c'est un ouvrage que vous pouvez vous procurer facilement, parce qu'on le trouve actuellement chez Garnier Flammarion, et c'est vraiment superbe. Je sais pas si, est-ce que certains d'entre vous l'ont déjà lu ? Oui ? Ça vous a plu ?
Oui.
Oui, c'est très très beau. Et donc, Fontenelle, quand il écrit cet ouvrage en 1686, il est très jeune. Alors, comme vous pouvez le constater, il est né en 1657 et il est mort en 1757. Mais il n'avait pas 100 ans. Il est mort juste un petit peu avant son centenaire. Mais quand même, pour l'époque, c'est absolument extraordinaire. Mais quand il écrit les entretiens sur la pluralité des mondes, il est tout jeune et il est absolument inconnu. Sauf qu'il a des oncles très connus qui s'appellent Pierre et Thomas Corneille, dont vous avez sûrement entendu parler. Et donc, les Corneille vont l'introduire dans le milieu parisien, et en particulier dans les salons parisiens. Et dans les salons, donc, il va rencontrer des dames, bien évidemment, et son livre va donc prendre naturellement le ton d'une conversation galante, comme les conversations qu'il mène dans les salons. Alors, la galanterie s'opère entre lui, le narrateur, et une marquise, parce que les entretiens se déroulent dans le château de la marquise, ou plus exactement dans le parc du château de la marquise, pendant 5 nuits au début et 6 nuits dans les éditions qui vont venir après. On appelle ça des soirs. Donc il y a 5 soirs dans les premières éditions, puis 6 soirs. Et comme vous allez pouvoir le constater, le plan de l'ouvrage de Fontenelle présente des similarités avec le plan de Huygens. Donc, dans le premier soir, Fontenelle tire la conséquence du système de Copernic, comme vous pouvez le constater. Donc, il dit de Copernic, « Je lui sais bon gré, répliquai-je, d'avoir rabattu la vanité des hommes qui s'étaient mis à la plus belle place de l'univers, et j'ai du plaisir à avoir présenté la Terre dans la foule des planètes. » Donc, il est content de Copernic. Puis, dans les soirs suivants, il va s'attacher à la Lune et les montagnes et les mers qui ont été découvertes à la lunette le poussent à l'analogie. Et il écrit « Prenez garde, madame, repris-je, car s'il faut que la lune ressemble en tout à la terre, nous voilà dans l'obligation de croire la lune habitée. » Et puis, Christophe Colomb est allé aux Indes occidentales. Pourquoi n'irions-nous pas dans la lune ? Ou alors, ça sera peut-être le voyage inverse. Donc il écrit « Alors, j'ai mis une illustration de Jules Verne parce qu'il n'y a pas d'illustration de Fontenelle. Donc là, c'est une illustration tirée du roman de Jules Verne. Les gens de la Lune savent peut-être déjà faire de petits voyages dans l'air. Alors qu'il est, ils s'exercent. Quand ils seront plus habiles et plus expérimentés, nous les verrons. Et Dieu sait quelle surprise. Mais dans un jeu de Fontenelle fait un jeu de balancier dans son ouvrage, c'est-à-dire qu'à certains moments, il sème le doute sur ce qu'il a dit avant. Donc, quelques pages plus loin, il sème le doute et dit « Ben, finalement, c'est pas trop sûr qu'il y ait des habitants sur la Lune, parce qu'on a découvert récemment qu'il n'y avait pas d'atmosphère sur la Lune. S'il n'y a pas d'atmosphère, c'est qu'il n'y a sans doute pas d'habitants. » Donc, il y a le froid, il y a le chaud. Tantôt, il y a des habitants sur la Lune, tantôt, il n'y en a pas. Et comme ça, il se prémunit des critiques en disant bah, « De toute façon, ce que j'ai dit, ce sont des conjectures. J'ai formulé des conjectures. » Alors, de la Lune aux planètes, il n'y a qu'un pas. Mais interrompit la marquise en disant toujours « Pourquoi non ? Vous m'allez mettre des habitants dans toutes les planètes. » « N'en doutez pas, répliquai-je. Ce « pourquoi non » a une vertu qui peuplera tout. » Alors, faisant le parallèle avec les découvertes récentes au microscope, il pense, comme beaucoup des gens qui l'ont précédé, que les différences d'une planète à l'autre sont tributaires de la distance au Soleil. On l'a vu déjà chez Huygens, c'était un des facteurs importants. chez Fontenelle, c'est le facteur décisif. Mais que sera-ce des habitants de Mercure ? Ils sont plus de deux fois plus proches du Soleil que nous. Il faut qu'ils soient fous à force de vivacité. Alors, ensuite, à partir de Mercure, il va passer en revue les différents astres. Et le premier... Alors, il y a un astre qui ne va pas du tout intéresser les hommes du XVIIe et du XVIIIe siècle, c'est Mars. Mars ne les intéresse pas du tout, parce que Mars n'a pas de satellite. Et ça, c'est quelque chose qui leur manque cruellement. Donc, il n'y a pas de satellite pour Mars, donc Mars n'est pas une planète intéressante. En revanche, il va regarder toutes les autres, et toutes les autres sont habitées. Alors, il se pose la question, est-ce que l'anneau de Saturne est habité ? Puis finalement, il se dit, oh ben non, c'est des petits cailloux, tout ça, non, l'anneau de Saturne n'est pas habité. Mais en revanche, Jupiter est habité, et tous ses satellites sont habités. Alors, enfin, dans le cinquième soir, Fontenelle est un disciple de Descartes. Donc, il va, comme Descartes, évoquer les tourbillons. Et donc, il va écrire... Rien n'est si beau à se représenter que ce nombre prodigieux de tourbillons dont le milieu est occupé par un soleil qui fait tourner des planètes autour de lui. Les habitants d'une planète, d'un de ces tourbillons infinis, voient de tous côtés les soleils des tourbillons dont ils sont environnés. Donc on a fait encore le saut vers les autres soleils. Alors les comètes, aux yeux de Fontenelle, les comètes sont des planètes qui naviguent d'un tourbillon à l'autre. Il les appelle des ambassadeurs. Donc les comètes sont des ambassadeurs qui vont d'un tourbillon autour d'un soleil, dans notre tourbillon à nous, autour de notre soleil. Et, bon, Fontenelle est quand même très très soucieux d'éviter les foudres de l'Église. Il veut que son livre soit publié, et il veut que son livre soit lu. Donc il veut éviter les foudres de l'Église. Donc à la fin de son ouvrage, il dit « J'ai peuplé toutes les planètes d'habitants, mais je n'ai jamais dit que c'était des hommes. » Attention, ce sont des habitants. Donc, les planètes sont habitées. Alors, évidemment, l'Église ne va pas s'y tromper, et l'ouvrage va être mis à l'index dès sa parution. C'est-à-dire, il paraît en 1686, il est mis à l'index en 1687. À mettre en parallèle avec Copernic, on pourra en reparler tout à l'heure si vous voulez. L'ouvrage de Copernic est paru en 1543. Il n'a été mis à l'index qu'en 1616, donc beaucoup plus tard. Mais Fontenelle, c'est un ouvrage qui est destiné au commun des mortels, qui est écrit en français, donc qui est très accessible, et ça, l'Église ne peut pas le supporter. Donc, mise à l'index immédiate, mais en 1686, la mise à l'index n'est plus quelque chose de grave. C'est-à-dire qu'il va pouvoir continuer à publier aux Pays-Bas, par exemple. Hein, s'il ne peut pas publier en France, il pourra publier aux Pays-Bas. Et il n'y aura pas vraiment il n'aura pas vraiment d'ennui. Hein, il n'aura pas du tout d'ennui, il ne sera pas arrêté. Bon, donc la mise à l'index est devenue tout à fait formelle à cette époque-là. Hein, on n'oublie pas que 1686, on approche du siècle des Lumières. Alors, ce qui est bizarre... Moi, je trouve ça très, très bizarre, c'est qu'aujourd'hui, on étudie Fontenelle dans les classes littéraires. Et on le considère comme un monument de la littérature. Mais on dit, dans les préfaces, quand vous lisez la préface du Garnier Flammarion, vous voyez, bah, Fontenelle, c'est un monument de la littérature française, mais d'un point de vue scientifique, c'est nul. Et c'est complètement faux. Parce que Fontenelle, c'est vraiment un témoignage remarquable sur ce que c'est que l'astronomie au tournant du XVIIe-XVIIIe siècle. Donc je vous invite à lire, c'est pas complètement évident de lire Fontenelle parce que c'est du langage du XVIIIe siècle, hein, mais je vous invite à le lire non seulement comme un monument de la littérature française, mais aussi comme un ouvrage d'astronomie qui vous racontera ce que c'est que l'astronomie en ce tournant du XVIIe-XVIIIe siècle. Donc moi je considère que c'est le premier exemple vraiment réussi de ce qu'on pourrait appeler vulgarisation de l'astronomie, bien que le mot vulgarisation soit anachronique puisqu'il n'apparaît qu'au milieu du XIXe siècle. Donc diffusion scientifique si vous préférez. Mais c'est le premier exemple vraiment réussi. Alors, on va maintenant parler dans le septième point, on va parler du Soleil. Alors, Fontenelle a un sentiment sur le Soleil qui est très très proche du nôtre. Je cite, « Il n'y a pas moyen d'y mettre d'habitants. le Soleil n'est pas un corps de la même espèce que la Terre, ni que les autres planètes. Donc Fontenelle règle son sort au Soleil. Pour lui, il n'y a pas d'habitants. Alors pour nous non plus, il n'y a pas d'habitants, évidemment, parce que nous, on est complètement imprégnés du modèle solaire hérité du XXe siècle. Donc on sait que le Soleil est une boule gazeuse, qu'elle est le théâtre de réactions nucléaires incessantes, et donc pour nous, il n'y a pas du tout de possibilité d'habitants sur le Soleil. Mais pour les hommes du XVIIIe siècle, il y a possibilité d'habitants sur le Soleil. Parce qu'ils ont conçu des théories solaires qui correspondaient à leurs observations. Alors il y a ce monsieur qui a une superbe touffe, très bizarre, donc il s'appelle Alexander Wilson et qui vit à Glasgow, qui est écossais, qui vit entre 1714 et 1786 et qui est très connu pour l'effet Wilson sur les taches solaires. Pour ceux d'entre vous qui sont des observateurs de taches solaires, vous connaissez l'effet Wilson. Et qui est aussi très connu chez les historiens des sciences pour son modèle solaire. Donc pour Alexander Wilson, le Soleil est une boule solide. Donc il y a une boule solide. Et autour de la boule solide, il y a des nuages incandescents. Et une fois de temps en temps, le nuage s'ouvre et on voit, par le trou du nuage, on voit le corps solide et ça fait les taches solaires. Donc ça, c'est l'explication des taches solaires par Alexander Wilson. Et c'est une explication qui fonctionne bien à cette époque. Qui fonctionne tellement bien que William Herschel, grand astronome anglais, enfin anglais, né en Allemagne, mais anglais quand même, qui a fait toute sa carrière en Angleterre, très connu parce qu'il a découvert quoi donc la planète bleue là, c'est Uranus. Donc William Herschel, très connu parce qu'il a découvert la planète Uranus, partage le sentiment, oui. Normalement c'est Uranus, j'espère. J'espère que c'est Uranus parce qu'elle est la photo, c'est William Herschel couplé avec Uranus. Mais je suis pas sûre.
Si c'est Uranus. Neptune est bleu, beaucoup bleu. Plus foncé, oui. Et surtout on peut voir des petits nuages blancs, alors que là c'est un bleu plus uniforme, même s'il y a un effet dégradé, mais ça c'est la lumière qui donne cet effet-là.
Ouais. Mais ça aurait pu être Neptune, parce qu'effectivement il y a le problème de la liaison entre Uranus et Neptune. Bon, donc William Herschel découvre Uranus et partage le sentiment de Alexander Wilson. D'ailleurs ils sont très amis. Il va être ami avec Alexander Wilson et après avec le fils Patrick Wilson. Donc ils se rencontrent souvent. Mais William Herschel est quand même tourmenté par cette histoire de nuages incandescents. Et il se dit, les habitants de mon soleil, quand même, ils doivent avoir bien chaud là-dessous. Et du coup, il va fabriquer une deuxième couche de nuages. Donc il y a le globe solide, il y a les habitants dessus, il y a une couche de nuages pour les protéger de la couche de nuages incandescents. Donc ça, c'est le modèle solaire de William Herschel. C'est un modèle solaire qu'il a développé dans des mémoires très très intéressants que j'étudie actuellement, qui sont parus en 1801 et qui sont actuellement récupérés par les climato-sceptiques, parce que William Herschel, à un tout petit bout de son mémoire, fait le lien entre les taches solaires et le prix du blé. Et donc du coup, les climato-sceptiques disent, ah bah vous voyez, William Herschel, il avait déjà repéré l'influence des taches solaires sur la météorologie. Donc ça, on pourra en reparler après si vous voulez, parce que bon, il y a beaucoup à dire. Mais ce n'est pas le sujet. Donc le sujet, c'est que William Herschel a une théorie du Soleil identique à celle de Wilson, le Soleil est habité. Et ça va aller jusqu'à François Arago, c'est-à-dire jusqu'au milieu du 19e siècle. En France, François Arago va développer la théorie de Alexander Wilson et de William Herschel, et va la populariser dans son astronomie populaire et dans ses conférences, dans les conférences qu'il fait à l'Observatoire de Paris. Donc ce modèle solaire va durer jusqu'en 1859, jusqu'au moment où on va découvrir la spectroscopie et où on va donc être capable d'analyser la nature des astres, et on va s'apercevoir à ce moment-là, en 1859, que le Soleil est une boule de gaz et il n'y aura plus d'habitants. Mais jusqu'en 1859, il y a des habitants sur le Soleil. Alors, j'arrive maintenant à mon dernier personnage, Camille Flammarion. Ça va, vous tenez le coup? Je ne suis pas trop rasoir? Non. Bon, donc, Camille Flammarion est un autodidacte. Il est né en Haute-Marne. Il s'est toujours passionné pour la nature en général, pour le ciel et pour la nature en général. Et il est embauché à 16 ans à l'Observatoire de Paris. À la suite d'un revers de fortune, ses parents viennent à Paris. Il est embauché à l'Observatoire de Paris et il se dit oh, « c'est merveilleux, je vais vivre ma passion pour les astres ». Et patatras, quand il arrive à l'Observatoire de Paris, l'Observatoire est entre les mains du sinistre Urbain Le Verrier, le découvreur de Neptune. Et Urbain Le Verrier est un homme acariâtre qui a plein de défauts. Et en plus, il a fait de l'Observatoire de Paris un centre de mécanique céleste hautement mathématisé. C'est devenu un centre de mathématiques. Flammarion n'aime pas les mathématiques. Et Flammarion, ce dont il rêvait, c'est de mettre l'œil à la lunette, d'observer. Et il fait que des calculs. Et d'ailleurs, il paraît qu'il était très mauvais calculateur. Bon, toujours est-il qu'il est très déçu par l'Observatoire de Paris. Et du coup, il se réfugie dans la lecture et dans l'écriture. Et il écrit un ouvrage qui s'appelle « La pluralité des mondes habités ». Et cet ouvrage, il parvient à le faire publier par l'imprimeur de l'Observatoire de Paris. Alors évidemment, ça lui vaut quelques ennuis. Bon, mais il a raconté beaucoup d'histoires, Flammarion. Il dit « Quand Le Verrier a su que j'avais publié ce truc, il m'a mis à la porte. » En fait, Le Verrier n'en avait rien à faire de Flammarion, qui était un sous-fifre dans un petit bureau de calcul de rien du tout. Il était même sans doute pas au courant qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Camille Flammarion. Donc c'est sûrement pas Le Verrier qui l'a mis à la porte. Hein. Et en tous les cas, s'il a été mis à la porte, c'est plus vraisemblablement parce qu'il faisait beaucoup d'erreurs de calcul plutôt que parce qu'il avait publié La pluralité des mondes habités. Mais il a réécrit son histoire, ça. Bon. Voilà. Et donc, La pluralité des mondes habités, écrit par un jeune homme de 20 ans, va rencontrer un très grand succès. Et du coup, il va pouvoir arrêter de travailler. Après l'observatoire, après avoir été viré de l'observatoire, il a été embauché au bureau des longitudes. Mais il va arrêter complètement de travailler et il va se consacrer à la vulgarisation par des revues, par des livres, dont l'astronomie populaire, et par de multiples conférences. Alors, il va aussi se voir léguer un observatoire. Un médecin va lui léguer un observatoire à Juvisy. Donc il va se retrouver à la tête d'une revue, d'un observatoire, et il va créer la Société astronomique de France en 1888, qui existe toujours et qui va essaimer en province dès l'origine. Même, je dois, puisque je suis nantaise, je dois défendre la Société d'astronomie de Nantes qui a été créée en 1884, donc 4 ans avant la Société d'astronomie de France, sous le patronage de Camille Flammarion. Et donc, il crée comme ça un réseau d'astronomes amateurs très très important, mais il poursuit toujours l'objectif d'être reconnu comme un savant. Et il va publier de nombreux mémoires qu'il va faire lire à l'Académie des sciences, des mémoires pour se faire reconnaître comme savant. Bon, il ne va pas vraiment y parvenir, mais il y a beaucoup de gens, en particulier à l'étranger, qui croiront que c'est le grand astronome français, grâce à tous ses ouvrages. C'est vraiment un astronome médiatique, comme il peut y en avoir de nos jours. Vous pouvez trouver des analogies, certainement, dans les astronomes qu'on voit beaucoup à la télé. Alors, pour Flammarion, le livre important, c'est le livre documentaire. Il écrit des pages assassines contre les romans. Les romans, c'est nuisible. Hein. Il faut éliminer les romans, bien qu'il en écrive quelques-uns, mais il faut éliminer les romans en général, il faut lire des livres documentaires. Il admire Fontenelle, dont il a repris le titre, hein, « Entretien sur la pluralité des mondes », c'est devenu « La pluralité des mondes habités ». Il admire Fontenelle, mais il trouve que Fontenelle, quand même, c'est un petit peu trop léger. Ces histoires de marquises, tout ça, c'est un peu léger. Donc il faut revenir au sérieux de l'ouvrage documentaire. Et en fait, l'influence la plus importante pour lui, ça n'est pas Fontenelle, c'est Huygens. Bien qu'il ne le dise, enfin, bien que ça soit pas très clair, c'est pas très clair dans ce que Flammarion dit, mais c'est clair dans ce qu'il écrit. Donc là, j'ai mis deux citations en parallèle. Une citation de Huygens et une citation de Flammarion. Flammarion, comme Huygens, nous qualifie, enfin, disent que nous habitons sur un globule. Donc, à gauche, Huygens. On comprend par là quelles sont les dimensions de ces orbites et combien petit est par rapport à elles le globule de la Terre, où nous exécutons tant de travaux, où nous naviguons tant et où nous faisons tant de guerres. Et je l'ai mis en parallèle avec Flammarion. 40 millions d'hommes sont égorgés régulièrement chaque ciel, chaque siècle, pardon, pour maintenir le partage microscopique du petit globule en plusieurs fourmilières. Donc là, vous avez un thème, bon, l'idée du le mot globule qui est récupéré vraiment de Huygens, et puis le thème de la guerre qui est omniprésent chez Huygens et chez Flammarion. Je ne sais plus où j'en suis. Si, je sais. Alors, en fait, chez Huygens, donc, on a vu que la pluralité des mondes, c'était une conséquence du système de Copernic et des tourbillons de Descartes. Alors, chez Camille Flammarion, c'est différent, ça devient une doctrine, quasiment une foi, quasiment une religion, et une doctrine finaliste. Donc, il va en édicter les règles. Voici trois règles. Reconnaissons que la Terre n'a aucune prééminence marquée, de manière à être le seul monde habité, et que les autres planètes ont une importance au moins égale à la sienne dans la destinée générale du système du monde. Dans la destinée, très important, il y a une fin. La vie est le but suprême de l'existence de la matière. Donc là aussi, il y a une fin, il y a un but. Là où les conditions sont préférables, la vie est apparue dans un état supérieur. Donc vraiment, il y a des règles sur la pluralité des mondes. Donc la vie est partout dans l'univers, sous des formes diverses, qui sont liées aux conditions particulières des planètes. Et toutes les planètes sont autant de foyers d'une vie active, manifestés sur des modes inconnus, autant de centres de création étrangères à celles que nous connaissons, mais grandes, admirables, sublimes, comme tout ce qui germe dans les sillons creusés par les mains de la nature. Alors là, vous voyez les envolées flammarionesques. Et évidemment, tous ces êtres partagent une destinée commune, puisqu'il y a une fin. Parallèlement à sa carrière de vulgarisateur, Flammarion est un spirite. Le courant spirite a beaucoup, beaucoup d'adeptes, y compris chez les scientifiques. Vous savez sans doute que Pierre Curie était un spirite. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont spirites à cette époque. Et dans ces... Alors, Flammarion écrit des ouvrages spirites qui sont séparés de ses ouvrages d'astronomie. Et dans ces ouvrages spirites, il développe sa conception de la vie après la mort. Il y a d'ailleurs un ouvrage qui s'appelle « La vie après la mort ». Et donc, pour lui, il y a deux catégories de gens. Il y a le commun des mortels qui ne vaut pas la peine qu'on s'y intéresse. Et là, il y a les hommes admirables, comme lui, et comme beaucoup d'autres hommes admirables. Et les hommes admirables vont finir leur vie éternelle sur une étoile lointaine. Donc, voilà. Ça, c'est la destinée de l'élite. Et pour Flammarion, il va y avoir une apothéose en 1877. Parce qu'en 1877, il y a une opposition extraordinaire, enfin, pas extraordinaire, mais une belle opposition de Mars. Elle n'est pas extraordinaire, mais elle est belle. Et on a des instruments très performants à cette époque-là. Et d'ailleurs, c'est en 1877 qu'on va découvrir les satellites de Mars. Et il y a un Italien qui s'appelle Schiaparelli, qui regarde Mars et qui se dit, mais on dirait que sur cette planète rouge, il y a des bras de mer. Comme sur la Lune, on pensait qu'il y avait des mers, là aussi il y a des bras de mer. Et donc il va les appeler des canali. Donc d'après ce que je ne connais pas l'italien, mais on m'a dit que canali, ça pouvait vouloir dire bras de mer naturel. Alors Flammarion, il traduit aussitôt par canaux, et il dit, ce sont des êtres intelligents qui ont construit ces canaux pour faire venir l'eau des pôles dans les régions tempérées qui sont devenues sèches. Donc, il va appeler les habitants de Mars tout d'abord des martiaux, en hommage au dieu de la guerre, et puis peu de temps après, il va les appeler des martiens. Et à Juvisy, on va observer les cadeaux de Mars, ça va devenir le thème principal de recherche, et Flammarion va écrire des tonnes d'articles sur les canaux de Mars, sur leur taille, sur bon, ce qu'il faut, voilà. Et en particulier, on va embaucher un jeune astronome qui s'appelle Antoniadi, qui va faire de magnifiques dessins de Mars et qui va se consacrer à l'étude de la planète Mars. Et Flammarion va faire un adepte, qui est Percival Lowell, qui est un richissime américain, et qui va se dire, eh bien, pour ces canaux de Mars, ça vaut le coup de fabriquer un observatoire sur mesure. Et il va créer un observatoire, l'observatoire de Flagstaff en Arizona, qui va être uniquement consacré à l'étude des canaux de Mars. Jusqu'en 1909, ou patatras. Antonia dit, est autorisé à aller regarder à la grande lunette de Meudon, et il s'aperçoit que tout le monde s'est aveuglé, et que tout le monde a vu des canaux, où il n'y avait, pas de canaux. Et donc, c'en est terminé. Flammarion va y croire encore jusqu'à sa mort en 1927, Lowell va y croire encore longtemps, mais l'observatoire de Flagstaff va se tourner vers autre chose, et vous savez que c'est à Flagstaff qu'on a découvert ce qui, jusqu'en 2006, était une planète, Pluton, et qui n'est plus une planète depuis 2006. Voilà. Alors, donc, j'en arrive à la fin de mon exposé. Je voulais terminer par des évolutions. Neuvième point, je vous avais annoncé 9 points. Je ne sais pas si vous avez vu tous les 8 d'avant. Hein, donc là, on arrive au 9e point, évolution, qui permettront, j'espère, d'annoncer les conférences qui vont venir ensuite. Donc, la littérature a pris le relais très très tôt. Hein. Donc, cette affaire des canaux de Mars, elle a inspiré H.G. Wells, qui, dès 1898, va écrire La guerre des mondes, dans laquelle des Martiens vraiment très très agressifs viennent détruire la planète. Alors, Flammarion s'est élevé contre Jules Verne. Flammarion et Jules Verne n'étaient pas copains. Et si vous avez des informations à ce sujet, je suis preneuse, parce que je n'arrive pas à trouver d'informations à ce sujet. Flammarion n'aimait pas Jules Verne, Jules Verne n'aimait pas Flammarion, et je ne sais pas très bien pourquoi. Et donc, en particulier, Flammarion va reprocher à Jules Verne de ne pas avoir mis d'habitants sur la Lune, dans les deux romans lunaires, De la Terre à la Lune et Autour de la Lune. Il va écrire un texte en disant « Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas d'habitants. » Bon. Mais en revanche, donc, il y a des habitants sur Mars. Et c'est le début de la fameuse saga martienne sur laquelle je vous ai dit que j'étais totalement incompétente. Hein, donc, je ne vous en parle pas. Alors, depuis, vous savez que l'homme a posé son pied sur la Lune, confirmant les prédictions de Fontenelle et des autres. Et en fait, ces Huygens, ce sont les impressions de Huygens qui ont été confortées. Effectivement, le sol est aride et on se rend bien compte maintenant qu'il y a quand même peu de chances que ça soit un séjour enviable. L'exploration martienne a aussi mis un terme définitif à l'affaire des canaux de Mars. S'il y a eu de l'eau sur Mars, et il y en a sûrement eu, c'était il y a bien longtemps. Donc, des canaux, il n'y en a plus. Mais il y a eu de l'eau sur Mars. Alors, si, quand je dis « il y a eu de l'eau liquide », je veux dire. Donc, tout au long de cet exposé, j'ai essayé de montrer qu'il y a eu deux voies. Donc, la première voie, c'est d'une part, depuis Copernic, la Terre est devenue une planète comme les autres. Donc, toutes les planètes sont susceptibles d'abriter la vie, puisque la Terre n'a pas de caractère particulier, toutes les planètes sont identiques. Les développements actuels de l'exobiologie s'accompagne d'une exploration minutieuse de toutes les planètes ou de tous les satellites susceptibles d'abriter la vie. Et donc, vous savez, à Nantes, on a un excellent laboratoire de planétologie qui s'intéresse en particulier à Titan. Hein. Mais on s'intéresse à Titan et on s'intéresse aussi aux satellites de Jupiter pour savoir s'il y a de l'eau et s'il y a des conditions possibles de vie sur ces satellites. Donc, ça, c'est une direction, la direction qui résulte de Copernic et de la similarité des planètes avec la Terre. Et la deuxième direction, c'est le Soleil. Donc, notre Soleil a été rétrogradé, lui aussi, au rang d'une étoile banale, en particulier par Descartes. Et donc, la course actuelle aux exoplanètes, c'est dans cette deuxième branche, c'est-à-dire rechercher des planètes autour d'autres soleils que le nôtre. Donc, finalement, il y a une filiation entre ce qu'on a vu sur le développement de l'idée de pluralité des mondes et les deux branches de recherche actuelles, tant sur les planètes du système solaire que sur les exoplanètes. Et donc, je vais terminer avec une expression de Flammarion, cet exposé. Donc, tous les chercheurs actuels peuvent affirmer avec Flammarion, je cite, « Notre paradis, c'est l'infini des mondes ». Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup. Alors, j'aurais des choses à dire, intervenir, mais d'abord je voudrais vous donner la parole. Donc si vous avez des questions, des compléments à demander, n'hésitez pas à lever le doigt, enfin comme à l'école. Et parce que je vous amènerai à ce moment-là le micro, parce que la conférence est enregistrée, et si je ne vous donne pas le micro, on n'entend pas lors de l'enregistrement les questions. Donc qui veut se lancer ?
Oui. Oui, d'abord, merci pour la conférence. Je trouve ça tout à fait passionnant.
Merci beaucoup.
J'ai beaucoup de questions. Je ne vais pas toutes les poser, parce que sinon, je ne vais pas monopoliser la parole.
Vous ne pas pouvoir tout répondre.
Oui, écoutez, j'y vais tout à fait au pif. Hein. J'ai noté pas mal de choses. Sur la rétrogradation du Soleil au rang d'étoile par Descartes, j'aurais voulu savoir, est-ce que c'est à l'époque de Descartes qu'on a compris que le Soleil n'était qu'une étoile? Ou est-ce que ce sont des découvertes qui se sont faites avant ou après? À quel moment on a compris que les étoiles étaient des soleils, enfin, si on inverse la proposition?
Chez les Grecs, c'est évident, enfin, dans le système de Ptolémée, le soleil, c'est un astre errant. Hein. Donc c'est un objet qui tourne autour de la Terre comme les autres planètes. Donc c'est un astre errant comme les autres planètes. Vous avez dans l'ordre la Lune, le Soleil, Mercure. Donc et les étoiles fixes, c'est quelque chose de complètement différent. Ce sont des petites lumières qui sont accrochées sur la dernière sphère, le septième ciel.
Oui. Hein.
Donc le Soleil n'a pas du tout le statut d'étoile chez les Grecs.
Oui,
ça,
d'accord.
C'est évident.
C'est un peu comme une planète, quoi.
Voilà, c'est une planète. C'est un astre errant. Mm-hmm. Hein, parce que planète, ça veut dire astre errant.
Oui.
La traduction, c'est astre errant. Donc c'est un astre errant qui tourne autour de la Terre. Donc dans le système de Ptolémée, c'est évident que le Soleil et les étoiles ont un statut fondamentalement différent. Les étoiles fixes, je vous dis, c'est des petits luminaires qui sont accrochés sur la dernière sphère. Donc ce n'est pas du tout des soleils. Donc jusqu'à Copernic, on ne peut pas vivre le Soleil comme une étoile. Ce n'est pas possible.
Mmh.
Alors après, chez Copernic, le Soleil acquiert une position fondamentale, puisqu'il devient, alors pas tout à fait le centre du monde chez Copernic, mais quand même le truc autour duquel tournent les planètes.
Mmh.
Donc là, c'est pareil, y a pas, le Soleil a un statut particulier, qui est le statut de l'objet autour duquel vont tourner toutes les planètes du système solaire. Et le système de Copernic est un système fini, donc Copernic ne s'intéresse pas aux autres étoiles.
Oui, donc il faudra vraiment attendre Descartes.
Alors,
vraiment pour,
peut-être pas Descartes, mais en tous les cas, l'époque de Descartes. Oui.
17e.
Quoi. 17e. C'est au 17e qu'on se pose le problème des étoiles.
Du Soleil comme un foyer.
Voilà.
Et des étoiles comme
oui.
Le Soleil.
Oui. Oui. Donc, Descartes, c'est vraiment le personnage marquant dans ce domaine, avec l'idée des tourbillons.
D'accord.
Mais c'est peut-être pas le premier. Hein. Vous savez, en histoire, on se pose jamais trop bien la question qui a été le premier. C'est pas très très important.
Enfin, c'est dans
cette époque-là.
Oui.
Oui.
Merci.
Tous les extraits des différents auteurs que vous avez présentés étaient très intéressants. Je me demande pourquoi vous n'avez pas mis d'extraits des écrits de Gordiano Bruno.
J'ai hésité, il y a beaucoup de gens que j'ai pas mis, j'en ai parlé tout à l'heure, je me suis dit aussi que j'aurais pu mettre des extraits de Voltaire, hein, de Micromégas. En fait, j'avais l'embarras du choix, je connais très mal Giordano Bruno, et ses écrits, enfin, si, il y a des choses sur la pluralité des mondes, mais ils apportaient rien de nouveau, si vous voulez, par rapport à ceux que j'avais mis par ailleurs, donc j'ai pas souhaité mettre Giordano Bruno, et en plus, si vous voulez, il y a toujours cette histoire, cette légende du fait que Bruno était brûlé pour des histoires astronomiques, ce qui n'est pas le cas. Donc je ne voulais pas conforter cette thèse-là et je n'ai pas souhaité. Mais vous avez raison, j'aurais très bien pu en mettre. Il n'y avait pas de problème. Dans le banquet des cendres, on trouve plein de choses. Et ce sont des écrits très très intéressants.
Je voudrais vous demander à partir de quoi les Grecs anciens avaient pensé que l'univers pouvait contenir plusieurs mondes.
Alors, c'est assez compliqué. Enfin, je ne suis pas une spécialiste de la Grèce antique. Hein. Et donc, c'est assez compliqué. C'est ce problème de l'infinité des mondes. Hein. Donc, c'est l'infini et... J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal à répondre à votre question. C'est très, très difficile de traduire les écrits d'Épicure. Je crois que le mieux, c'est d'essayer de lire Épicure. Hein. Il vient de paraître en Pléiade. Les Épicuriens en Pléiade, c'est magnifique. Mais c'est très, très difficile de traduire ça dans notre langage actuel parce qu'on fait rapidement des contresens, parce qu'il utilise le mot atome et que ça n'a pas du tout le même sens que chez nous. Hein. Donc je ne suis pas une spécialiste de la pensée d'Épicure et je ne saurais pas bien répondre à votre question, donc je préfère ne rien dire pour ne pas risquer de dire des bêtises. Mais ce qui est fondamental chez Épicure, c'est l'infinité. C'est l'infini. Donc, puisque c'est infini, il y a des mondes partout.
Et si je peux me permettre pour compléter, avec ça, c'était paradoxal parce que la version d'Aristote disait que tout ce qui était au-delà de la Lune était parfait.
Oui,
et tout ce qui était en dessous, donc la Terre, était imparfait. Donc, au-delà de la Lune, il ne pouvait pas y avoir des choses comme la Terre.
Oui, oui, oui. Alors, Aristote, la physique d'Aristote, c'est complètement différent d'Épicure. Aristote, c'est un anti-atomiste primaire. Donc, il est à bloc contre Épicure. C'est vraiment quelque chose d'intolérable pour Aristote. Et effectivement, le monde d'Aristote, lui, est un monde qui se borne à notre système, qui est le monde des sphères emboîtées, qui va donner le système de Ptolémée. Donc, il y a que dans Aristote, il n'y a que notre monde. Mais chez Épicure, il y a plein de monde. Il y a plein de monde dans tous les sens du terme.
Encore une autre petite question.
Oui, je vous en prie.
Par rapport à au finalisme de Flammarion, oui, c'est ça. Son finalisme, finalement, consiste à penser, alors c'est une question, hein,
oui.
Que la finalité de la matière, c'est la vie.
C'est la vie.
Et la seconde finalité de la matière, ce serait au-delà de la vie, l'intelligence.
On peut le dire, oui.
C'est
oui,
ça.
Oui, on peut le dire.
Parce qu'après, vous avez évoqué la destinée particulière des êtres, mais ça, c'est pas la... Ça
alors, n'entre pas dans il essaye de faire la différence entre ses écrits astronomiques et ses écrits spirites.
Ah oui, là, c'est...
Mais il y a vraiment des livres... Il y a trois types d'ouvrages chez Flammarion. Il y a les ouvrages d'astronomie, il y a les romans, et il y a les écrits spirites.
Donc là, la destinée des êtres vivant sur les planètes,
c'est dans les romans et dans les écrits spirites.
D'accord.
Ouais. Mais en fait, quand même, il n'arrive pas trop bien à séparer. Donc, dans la pluralité des mondes, il y a un peu les deux. Qui est son premier ouvrage, si vous voulez, il y a un peu les deux. Il y a un petit peu de spiritisme quand même dans la pluralité des mondes.
C'est-à-dire qu'il imagine que les êtres hypothétiques auraient oui. une destinée commune.
Oui.
Et il ne s'explique pas là-dessus. Enfin,
alors,
pas plus que ça.
Oui, oui. Et il a vraiment une idée de notre Terre comme un monde peu développé. La Terre est un... Mm-hmm. Les planètes au-delà ont... ont donc un niveau d'intelligence nettement supérieur au nôtre. Donc les civilisations au-delà sont bien, bien plus évoluées que la civilisation terrestre. Et donc nous, on est des gens peu évolués. Donc les autres, notre destinée, c'est l'évolution. Enfin, l'évolution, mais pas au sens darwinien. On va évoluer
oui.
parce qu'on va
culturel.
Devenir de plus en plus vieux. Et quand on devient de plus en plus vieux, on devient meilleur.
Oui, donc en fait, c'est la vie, l'intelligence et la civilisation.
Voilà.
Ou la science, oui.
Oui.
D'accord.
Oui.
Okay, d'accord.
Oui.
Merci.
Bonjour. Vous parlez beaucoup de la vision européenne. Est-ce que vous savez comment, ce qu'il en est pour les autres parties du monde ?
Non, ça j'ignore totalement. J'ignore totalement. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est un champ complet, si vous voulez. C'est un champ complet. Les Mayas, bien sûr, etc. Les Indiens. Il y a un champ complet de travaux au-delà du monde occidental. Mais moi, je me suis contente. Même, je me suis quasiment contentée de la France. J'ai un petit peu regardé à l'étranger, mais parce que c'est trop vaste.
Et c'est un travail encore difficile parce que dans certaines civilisations, il n'y a soit pas d'écrit, soit plus d'écrit.
Oui, c'est déjà compliqué avec les Grecs hein, parce que sur certains Grecs, il ne reste rien. D'Épicure, il ne reste pas grand-chose. Et donc, c'est effectivement difficile.
Voilà. Donc, j'ai le micro, je voudrais juste en profiter. À un moment donné, on ne va pas revenir sur la définition de ce qu'est une planète, mais... à un moment donné, il était question du statut de planète avec ou pas de satellite.
Mm-hmm.
Et si une planète n'avait pas de satellite, elle n'était pas intéressante. Donc à ce moment-là, quand on regarde le système solaire, Mercure, Vénus n'a pas de satellite,
mm-hmm.
Mars, ils n'étaient pas découverts. Et donc finalement, il restait peu de candidates. Hein,
Mercure et Vénus sont quand même intéressantes parce qu'elles sont proches du Soleil. Donc à la limite, Mercure et Vénus n'ont pas besoin de satellites parce qu'elles sont proches du Soleil. Mais en revanche, une fois qu'on est, quand on est loin du Soleil, on a besoin d'un satellite pour avoir, pour réfléchir la lumière du Soleil. Et pour Mars, c'est vraiment, à partir de Mars, ça devient très important. Sur Vénus, d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il y a des écrits très, très différents. Il y a certains auteurs qui pensent que le monde de Vénus est un monde merveilleux. Puis il y en a d'autres qui disent, bah, il fait chaud quand même. Hein. Donc on grille là-bas quand même. Donc c'est pas sûr que ça soit un monde merveilleux.
Avec plein de Vénusiennes qui étaient imaginées.
Voilà, c'est sûr.
Ça peut être que merveilleux.
Oui, la planète de l'amour, c'était merveilleux.
Donc ils ont évoqué la possibilité d'une vie sur le Soleil à un certain moment, mais qu'en est-il des autres étoiles? Est-ce qu'à un moment donné, ils ont évoqué la possibilité d'une vie sur toutes les autres étoiles?
Je ne sais pas répondre à votre question. J'ai pas vu. J'ai vu nulle part. Hein. Dans ce que j'ai lu, je n'ai jamais vu évoquer, mais pourquoi pas? Pourquoi, comme dit Fontenelle, pourquoi non?
Parce qu'au final,
pourquoi non? Bah oui, à partir du moment où on admet que les étoiles sont d'autres soleils, comme notre soleil est habitable, il n'y a absolument pas de raison que les autres étoiles ne soient pas habitées. Il faut que je regarde. C'est possible que Herschel évoque l'habitabilité des autres étoiles, mais ça, il faut que je regarde. J'en suis pas sûre. Mais pourquoi non?
Parce qu'au final, c'est ce qu'on voit le plus dans le ciel. Les planètes, on les voit pas forcément. Et du coup, oui, c'est vers là qu'ils auraient pu se diriger en premier. C'était les points lumineux qu'on voyait dans le ciel, finalement.
Oui, mais qu'à partir du moment où on considère que ce sont des soleils. Hein. Tant que ce sont que des luminaires, c'est pas important. Ouais. Hein. Mais à partir du moment où ça devient des soleils avec leur cortège de planètes, là, effectivement, vous avez raison. Pourquoi non?
Il me semble avoir entendu que, d'après vous, Fontenelle aurait écrit le premier roman de, pas le premier roman, mais le premier ouvrage de vulgarisation.
Abouti, j'ai dit abouti. Il y en a eu d'autres avant. Hein.
Est-ce que vous ne pensez pas que Galilée, avec ses dialogues, n'a pas fait de la vulgarisation? Ah bon, et pour quelle raison?
Alors, ça c'est un débat. Il y a des personnes qui considèrent que les discours sur la pluralité des mondes sont un ouvrage de vulgarisation. Pour moi, non. Parce que pour moi, tout ça c'est une affaire de définition. Qu'entend-on par vulgarisation? Donc, pour moi, la vulgarisation, c'est mettre à la portée du commun des mortels un ouvrage savant préexistant. Or, les discours sur la pluralité des mondes, c'est le manifeste de la nouvelle physique. Donc c'est un ouvrage savant, même s'il est écrit en italien. Oui, il est écrit en... Alors ça dépend de ce qu'on prend comme critère, si vous voulez. Si on prend comme critère, si c'est écrit en français ou dans la langue véhiculaire, c'est un ouvrage de vulgarisation, on peut dire que le discours sur la pluralité des mondes est un livre de vulgarisation. Mais moi, je ne prends pas ça comme définition. Moi, je considère qu'on ne fait de la vulgarisation qu'à partir du moment où on a un ouvrage savant qu'on va mettre à la portée du commun des mortels. Et donc, pour moi, les discours sur la pluralité des mondes les discours sur les deux systèmes du monde de Galilée, ce n'est pas un ouvrage de vulgarisation. Mais vous pouvez tout à fait penser le contraire. Hein. Ça dépend vraiment de votre définition. Mais bon, quand je dis que c'est le premier ouvrage de vulgarisation, ce n'est pas vrai. C'est le premier ouvrage abouti de vulgarisation. Parce que j'ai travaillé sur le fonds ancien de la bibliothèque municipale de Nantes, qui est absolument magnifique. Si vous avez l'occasion de venir voir, on a vraiment des trésors. Et il y a un très très joli livre écrit en français d'un auteur qui s'appelle Jean-Pierre de Même, qui est publié en 1500, au milieu du XVIe siècle. Donc, un petit peu après 15 ans après Copernic, donc ça doit être dans les années 59 ou un truc comme ça, hein, 1559. Et c'est absolument magnifique. Et en fait, Jean-Pierre de Même, c'est un auteur qui est très ami avec les gens de la Pléiade et qui essaye, par ce canal-là, de défendre et d'illustrer la langue française. Donc, il fait aussi de la vulgarisation. Mais il fait de la vulgarisation sur le système de Ptolémée, parce qu'il rejette le système de Copernic. Donc, en fait, il s'inscrit dans un courant de diffusion du système de Ptolémée, et je considère que, bien que ce soit un ouvrage de diffusion scientifique, il n'est pas complètement abouti. Mais tout ça, ça se discute.
Je voudrais poser une question. qui rejoindrait un petit peu celle-ci. Quand vous parliez de mise à l'index du livre de Fontenelle, donc,
1687.
Voilà, et en général, il mettait un petit peu tout à l'index à ce moment-là. Mmh. Mais il n'a pas été inquiété par la suite. Est-ce que c'est parce qu'en arrière-plan, il considérait que ce livre-là n'était pas un véritable livre scientifique, ou c'était parce qu'il était moins rigoureux sur la chose? Je ne sais pas si je m'exprime bien.
Oui, tout à fait.
Alors que Galilée, ça se valait comme un livre de physique, de mathématiques, qui pouvait décrire le monde et qui était... Ouais. À mettre en parallèle par rapport à une vision religieuse. Là, si c'était moins rigoureux sur la mise à l'index, enfin sur la plus tolérant, on va dire, est-ce que c'est parce qu'il était justement considéré un petit peu comme un livre de vulgarisation ?
Je ne crois pas. Je crois vraiment qu'il y a deux paramètres qui sont importants. C'est qu'il y a 50 ans qui se sont écoulés depuis l'affaire Galilée. Et donc, 50 ans très importants. Hein. 50 ans du XVIIe siècle avec la révolution scientifique. Du XVIIe siècle, donc on ne pense plus 50 ans plus tard, on ne pense plus de la même façon, et en particulier tous les savants religieux, les jésuites, tout ça ont beaucoup évolué. Hein. À l'époque de Fontenelle, la plupart des jésuites sont coperniciens, hein, même s'ils ne l'avouent pas. Donc le monde a changé, le monde a vraiment changé, et Fontenelle est français, il n'est pas italien. Et l'index en France et en Italie, c'est pas pareil. Et donc, en France, en 1686, on est à l'aube des Lumières. Fontenelle, c'est à la limite un homme des Lumières. L'Église ne pourrait pas se permettre un procès comme le procès de Galilée pour des raisons comme celle-là. Il va y avoir des procès retentissants à l'époque de Voltaire pour des raisons religieuses, mais vraiment religieuses. Hein. Mais pour un motif comme celui qu'on reproche à Fontenelle, on ne va pas lui faire un procès en 1686, en France. Vous voyez ? Donc même, le fait que ça ne soit pas un ouvrage savant, je ne pense pas que ça entre en ligne de compte.
Une autre petite question concernant le traité du monde de Descartes. Oui. D'après mes vieux souvenirs, je crois que c'est un livre dont on n'a pas de trace, enfin qui a été détruit, je crois.
Non. On l'a, le traité du monde. Il a été édité à titre posthume. Oui. Il a été. Si vous pouvez le trouver, on en trouve des versions actuelles. Il a été édité à titre posthume. Il a jamais voulu. Descartes n'a pas voulu qu'il soit publié de son vivant parce qu'il avait vraiment très peur. Descartes était vraiment très effrayé par ce qui était arrivé à Galilée.
Il était plutôt réaliste.
Comment ?
Il était plutôt réaliste.
Il était très réaliste, oui. Et donc, il n'a pas voulu que ça soit édité de son vivant, mais ça a été édité très, très peu de temps par ses disciples, très peu de temps après sa mort, et on en trouve des versions actuelles.
Alors moi, je ne connais pas du tout ce livre de Descartes.
C'est intéressant.
Il est différent de... Il est plus hardi dans ses hypothèses que les méditations métaphysiques ou le discours de la méthode, par exemple. C'est différent ?
C'est différent. C'est différent parce que c'est vraiment un ouvrage d'astronomie dans lequel il développe la théorie des tourbillons, etc. Donc, ce n'est pas un ouvrage méthodologique ni philosophique. C'est vraiment un ouvrage d'astronomie. Mais d'astronomie à la Descartes.
Oui, dont s'inspira Kant, alors je suppose.
Est-ce que Kant s'est inspiré de Descartes ?
Enfin, il a essayé de faire une synthèse entre Descartes et Newton, je crois.
Kant a écrit une théorie du ciel. La théorie du ciel de Kant, c'est très très intéressant. Mais moi, je ne connais pas trop, mais j'ai le sentiment que c'est quand même un ouvrage très original. Puisque Kant essaye d'y développer l'idée de ce qu'il appelle les univers îles, c'est-à-dire qu'il existe d'autres galaxies que la nôtre. Oui. Donc on retombe dans les histoires de plusieurs mondes différents du nôtre. C'est pas vraiment une synthèse de Descartes et de Newton, c'est vraiment quelque chose d'essentiellement différent. C'est une des premières fois où on a une vraie proposition cosmologique. Il est souvent considéré... Alors, à cette époque-là, il y a aussi Thomas Wright, il y a plusieurs personnes qui ont des propositions... Ou William Herschel. Mm-hmm. Il y a plusieurs personnes qui ont des propositions cosmologiques sur l'univers en tant qu'entité. C'est plutôt un ouvrage cosmologique, ce que n'est pas vraiment le traité du monde. Enfin, c'est difficile à dire, mais non. Non, moi je ne dirais pas que Kant, c'est une synthèse de Descartes et de Newton. Je dirais que c'est vraiment un ouvrage très original.
Donc Descartes se cantonne au système solaire, grosso modo, alors que Kant...
Non, c'est le système des tourbillons. Donc dans les tourbillons, il y a notre système solaire, c'est un des tourbillons.
Ah oui, d'accord.
Et il y a d'autres tourbillons qui sont d'autres systèmes solaires, si vous voulez.
Et alors pourquoi l'un serait cosmologique, enfin, Kant et pas
Parce que la préoccupation... Enfin, la préoccupation de Descartes, ça reste quand même d'expliquer les phénomènes, d'expliquer les phénomènes que Newton va expliquer par l'attraction. Mais ça, on reste dans la ligne de l'explication des phénomènes. Et chez Kant, il y a une extrapolation, si vous voulez. Descartes essaye de s'appliquer sa méthode scientifique, c'est-à-dire que tout ce qu'il raconte sa théorie des tourbillons doit permettre de rendre compte de ce qu'il observe. Mm-hmm. C'est fondamental pour lui. Si vous voulez, il y a une méthode chez Descartes, une méthode expérimentale. J'observe et j'essaye de rendre compte par mon système de ce que j'observe. Alors que chez Kant, ça va bien au-delà.
C'est plus hypothétique.
Voilà. Il y a beaucoup plus d'hypothèses. On est vraiment dans une hypothèse de construction de l'univers.
C'est au niveau de la méthodologie plus que ça diffère.
C'est la constitution des cieux, si vous voulez. C'est la constitution des cieux, ce qui n'est pas la préoccupation de Descartes. Descartes, c'est trouver un modèle qui va nous expliquer les apparences célestes. On reste dans l'idée même platonicienne, si vous voulez, sauver les phénomènes, rendre compte de la de ce que c'est que de ce qu'on voit, quoi. C'est ça, Descartes.
Oui, donc les tourbillons. D'accord. Donc Kant serait plus moderne dans sa méthode.
Kant, il va au-delà de l'explication des phénomènes. Il va essayer de fabriquer quelque chose de beaucoup plus hypothétique, comme vous l'avez dit. D'ailleurs, il appelle ça théorie du ciel. Et la théorie, c'est vraiment c'est le mot central.
Merci.
C'est aussi un texte très, très intéressant, qui est très peu lu, la théorie du ciel de Kant, et c'est vraiment très intéressant.
Oui, bonsoir. Juste une toute petite information sur ce qui vient d'être dit sur Descartes. La bibliothèque de Châtellerault possède une très grande carte de Descartes, où il est question, bien sûr, d'un petit peu de tout, de mémoire, parce qu'il y a très longtemps que je ne l'ai pas consulté. Par contre, j'ai retenu qu'il y avait un système solaire différent de celui de Galilée et de celui de Ptolémée, hein, juste pour information, comme ça. C'est consultable à Châtellerault, hein, cette carte.
Oui. Pendant longtemps, on va considérer qu'il y a quatre systèmes du monde. Donc le système de Ptolémée, le système de Copernic, bon, il y a le système bâtard entre guillemets de Tycho Brahe, et le système de Descartes. Voilà.
Moi, par contre, je voulais vous entendre sur ce que vous avez évoqué sur la vulgarisation, c'est-à-dire partant un petit peu de preuves scientifiques et puis de raisonnement, comment on peut, disons, vulgariser, apporter à un grand public un certain nombre de connaissances. Et j'aurais aimé vous entendre sur deux points, l'obliquité, je vais m'en expliquer, et puis le jour, la notion de jour. Étant entendu, la notion de jour, entendons-nous bien là-dessus, c'est-à-dire la durée d'une rotation de la planète sur elle-même. Bien sûr, le jour terrestre fait 24 heures, mais ce n'est pas le cas pour les autres. Et ces deux points-là, alors je développe un peu l'obliquité pour situer un petit peu le débat, c'est-à-dire que la Terre se présente légèrement un petit peu penchée, comme si nous marchions dans la rue avec une jambe un peu plus courte et qui nous donnerait une stature façon tour de Pise. Donc en se présentant face au soleil de cette manière-là, elle ne reçoit pas un éclairement identique tout au long de l'année, tout au long d'une révolution, ce qui déclenche bien sûr le phénomène des saisons. Et sur l'obliquité, j'aimerais vous entendre parce que la Terre est unique, presque, il y en a une autre bien sûr. Sur la notion de jour, même s'il a un petit peu évolué au cours des âges, on est on va dire aux environs de 24 heures pour l'instant, mais à l'ère secondaire je crois que ça devait être aux environs de 22 heures. Par contre, d'autres planètes, c'est ou très long ou des fois très court. Et j'aimerais vous entendre si à cette époque on s'est penché sur ces questions comme condition de la vie.
Il y a un cas typique, c'est le cas de Jupiter. Donc l'obliquité de l'axe de Jupiter, elle est quasiment nulle. Donc sur Jupiter, il n'y a pas de saison. Et donc il y a un gros débat, en particulier chez Auguste Comte. Auguste Comte dit, Jupiter, c'est le paradis, c'est le rêve, c'est la planète sur laquelle il n'y a pas de saison. Donc il faut poursuivre un objectif essentiel, ça serait de faire de la Terre un nouveau Jupiter. Et donc ça va donner naissance à un roman de Jules Verne que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Sans dessus dessous. Vous le connaissez ? Oh, lisez ce roman, c'est absolument extraordinaire. Donc Jules Verne, ce sont les artilleurs du Gun Club de Baltimore, ceux qui ont envoyé le boulet vers la Lune, qui décident de redresser l'axe de la Terre pour devenir un nouveau Jupiter. Et donc, avec un coup de canon, ils espèrent redresser l'axe de la Terre pour supprimer le phénomène des saisons. Donc ça, c'est l'idée scientifique fondamentale. Mais il y a aussi une idée capitaliste derrière, parce qu'on pense qu'il y a des ressources de houille phénoménales au pôle. Et donc, en redressant l'axe de la Terre, on va faire fondre la banquise et on va pouvoir aller exploiter les ressources de houille au pôle. Ce sont des Américains qui font ça, hein. Et donc c'est un roman, mais vraiment, c'est un roman très très court et très drôle, et qui repose sur cette idée d'Auguste Comte que la planète idéale, c'est Jupiter, parce qu'il n'y a pas de saison.
Il y avait une autre question sur la durée du jour.
Alors sur la durée des jours, ça intervient dans l'astronomie comparée, c'est un paramètre fondamental. C'est-à-dire donc les planètes sur lesquelles les jours sont... C'est ce que dit Kepler, hein, il dit sur la Lune, le jour dure 15 des nôtres, donc on n'a pas du tout la même vie sur une planète sur laquelle le jour est beaucoup plus long. Donc ça intervient dans l'astronomie comparée. Alors je ne suis pas rentrée dans le détail, mais Flammarion, pour chacune des planètes, il explique le caractère des personnes, le caractère de chaque personne est déterminé par le fait qu'il n'y ait pas de saison, justement, donc le climat qui va sévir sur cette planète, s'il fait chaud, s'il fait pas chaud, et puis par la durée du jour, bien évidemment. Hein. Et par le nombre aussi de lunes, parce que on peut, même si la nuit est longue, si on a 4 ou 5 lunes, c'est beaucoup plus agréable. Et puis en plus, les lunes, elles peuvent être de couleurs différentes.
Et après, sur des mesures, enfin, je ne sais pas exactement si c'est des mesures ou des hypothèses, mais en 1850-1900, dans les écrits de livres d'astronomie, en période de rotation de Mercure et Vénus, on propose un jour, comme la Terre. Alors, est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas mesurer, je crois, et donc on fait l'hypothèse que c'est la même chose que la Terre, hein, mais...
Il y a eu des grosses... Alors, je ne sais plus laquelle... c'est difficile quand on n'a pas de tâche, quand on n'a pas de point de repère, c'est très très difficile de déterminer une période de rotation. Autant la révolution, c'est évident avec Kepler, autant la rotation, c'est pas évident tant qu'on n'a pas un point sur lequel on puisse se concentrer. Donc il y a eu
Vénus. C'est minuscule, Vénus est relativement uniforme. Donc.
Ouais, Vénus, il y a eu un gros problème. Il y a eu des gros écarts sur les valeurs qui ont été données jusqu'à tardivement. Ouais.
Question qui rejoint votre réponse précédente et puis la question qui était posée au niveau des étoiles, justement sur la description des habitants. Alors à un moment donné, vous avez évoqué qu'effectivement, on ne l'imaginait pas comme des hommes, mais à quoi ressemblait-il ? Parce que j'ai souvenir dans certains romans du 19e qu'autour de certaines étoiles, par exemple, qui faisaient deux fois la taille du Soleil, on imaginait les habitants de ces planètes deux fois plus grands que les humains.
Donc
on avait, il y a certainement de l'imagination pour décrire ces habitants-là.
C'est très anthropomorphique en réalité, hein, parce que bon, on vous parle de taille, on vous parle, donc en fait on pense homme. Oui. La plupart de Camille Flammarion, il le dit pas, mais il pense à des hommes beaucoup plus grands ou des hommes beaucoup plus petits, mais c'est des hommes derrière. On voit bien qu'il pense à des hommes.
Parce que ça, on le retrouve en science-fiction où les martiens sont imaginés des grandes oreilles, parce que comme il y a moins d'air, le son se propage beaucoup plus difficilement. Oui. Donc pour recevoir ce son, il faut des récepteurs plus grands, donc des grandes oreilles. Enfin,
oui, tout à fait.
Y a-t-il d'autres points à explorer ? Donc peut-être une dernière petite remarque. Je reviendrai toujours à cette notion de qui vient de Copernic, qui était reprise un peu après, que en faisant sortir la Terre en fait de son centre, on la rend ordinaire.
Voilà, c'est ça.
Du coup, les autres planètes deviennent aussi ordinaires. Mm-hmm. Et la grande peut-être révolution du siècle qui s'est passé là, c'est de découvrir que finalement la vie, c'est pas si abondant qu'on imaginait autrefois. Oui. Et du coup, cette planète qui est ordinaire, elle abrite quelque chose de relativement précieux. Et on revient à une situation antérieure.
Complètement.
Et pour continuer à prolonger cette idée-là, donc auparavant, on pensait que toutes les planètes étaient habitées et habitables, habitables et habitées. Et aujourd'hui, depuis 15 ans, on commence à trouver des exoplanètes, des planètes en dehors du système solaire. Et j'ai l'impression qu'on reproduit exactement le même schéma. C'est-à-dire que ces systèmes planétaires, ils font forcément comme le nôtre. Alors bon, dans le grand public, scientifiquement, on voit justement qu'ils sont, certains sont très différents. Mais dès qu'on commence à trouver des systèmes avec plusieurs planètes, on fait immédiatement la comparaison avec le système solaire et on commence à évoquer des planètes habitées.
Sauf que pour l'instant, on trouve surtout des géantes gazeuses, donc on a un petit problème.
Voilà. Mais on commence à trouver des planètes de masse terrestre. Et j'ai l'impression qu'on fait un raccourci un peu trop rapide, comme on l'a peut-être fait avant, au niveau de fait de dire qu'elles sont forcément habitées. Donc on verra plus tard, dans plusieurs années, si l'idée se concrétise ou pas. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a une analogie et un parallèle à faire entre... ces planètes qu'on découvrait au niveau de leur physique d'un siècle passé et ces nouvelles planètes qu'on découvre en ce moment.
Tout ça, c'est des notions que je ne maîtrise pas très bien, mais il me semble qu'il y avait tout de même, c'est assez récent de considérer l'être humain, l'homme, comme un animal, peut-être plus évolué, mais tout de même un animal. Mm-hmm. Et à cette époque-là, est-ce qu'il n'y avait pas une nette différence entre les animaux et les hommes? Et pouvait-on imaginer... sur une autre planète, on pouvait peut-être imaginer qu'il y ait des animaux, mais ce petit saut qui met l'homme au-dessus des animaux, est-ce qu'on l'imaginait déjà? Je ne sais pas si je m'exprime bien.
Alors la différence entre les animaux et les hommes, oui, vous avez complètement raison. Bon, alors ça, ce n'est pas mon domaine, hein, mais je pense que le point déterminant, ça va être Darwin et l'évolution.
Oui. Mais là, on parle avant Darwin, justement.
Oui, et aux yeux de gens comme Flammarion, il y a une division, enfin, il y a les animaux et les hommes, mais les planètes sont habitées par des trucs qui ressemblent à des hommes, quand même, ça c'est évident.
Donc sur les planètes aussi, ce saut a été fait.
Oui, et je vous dis, chez Flammarion, plus les planètes sont lointaines, plus elles sont dans un niveau d'évolution... un meilleur niveau d'évolution, et donc les hommes sont beaucoup plus... Enfin, il n'appelle pas ça des hommes, mais quand on regarde, quand on lit ce qu'il écrit, on voit bien qu'il pense à des hommes plus évolués que nous.
Il y avait peut-être aussi une notion de religion qui est rentrée là-dedans.
Alors, ce n'est pas un homme religieux. Ouais. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Mais en tous les cas, il n'a pas... il a une espèce de doctrine qui est sa doctrine propre, qui n'est pas la religion de ses parents.
D'accord.
Voilà. C'est la religion dans laquelle il a été élevé, puisqu'il a été élevé par les frères, par les prêtres, et pour qui il a toujours gardé un profond respect, mais il a pas, c'est pas un catholique, quoi.
D'accord, merci.
Je vous remercie beaucoup pour vos questions qui étaient très très pertinentes, qui m'ont fait très plaisir.
Moi aussi, j'ai apprécié le débat, parce que c'est rare. C'est rare. Parfois, il y a très peu de questions.
Oui, il y a eu beaucoup de questions et elles étaient toutes pertinentes.
Voilà. Donc, je vous remercie tous.
Merci
et puis
beaucoup.
Donc, on va pouvoir peut-être conclure donc cette soirée ici. Donc, je vais me rapprocher de la scène parce que j'ai des petites infos à vous faire part. Donc, c'est par rapport à la suite des choses. Donc, la prochaine conférence qui aura lieu ici, donc ce sera une autre thématique parce qu'il y aura un autre événement en 2011-2012. Ce sera l'anniversaire des 50 ans du CNES. Le Centre national d'études spatiales. Et à cette occasion-là, donc le 14 décembre, il y aura Frédéric Baudin qui viendra nous parler d'un satellite français, Corot, enfin français, financé par le CNES, mais avec une petite collaboration internationale, qui est un satellite d'observation des étoiles et surtout de leurs vibrations. C'est-à-dire que les étoiles vibrent un peu comme la membrane d'un tambour. Et en observant ces vibrations, eh bien, on peut déterminer l'intérieur des étoiles, chose qu'on ne peut pas faire avec la lumière classique. Et donc, ça sera la conférence inaugurale de ce cycle de conférences qui seront proposées donc, à la fois à Mendès-France, mais aussi dans plusieurs sites en Poitou-Charentes, donc autour du spatial. Donc, il y a des conférences à La Rochelle, du côté de Demel, du côté de Chabanais aussi, en Charente, en Angoulême. Enfin, voilà, il y aura plusieurs rendez-vous, une dizaine de rendez-vous un peu partout en Poitou-Charentes pour célébrer donc, les 50 ans du CNES. Ensuite, ici à Poitiers, mais aussi à Châtellerault, et je voudrais saluer donc Michel Royer qui est là ce soir, qui représente la Société des sciences de Châtellerault. Donc il y aura un rendez-vous le 21 mars à Châtellerault sur justement la recherche de vie dans le système solaire. Et la veille, le 20 mars, il y aura Thérèse Encrenat qui viendra nous présenter Neptune. Donc c'était pour faire écho à la présentation de Fabien Locher, mais je serai à l'inverse, c'est pas grave. Et présenter donc Neptune et les planètes géantes. Et à la suite de cette conférence, en fait, on va inaugurer une nouvelle formule, c'est-à-dire qu'il y aura une conférence, et à la suite de cette conférence-là, il y aura une projection au TAP Cinéma d'un documentaire film autour des sciences et autour de l'astronomie. Donc ces rendez-vous-là seront donc aux alentours du 21 mars, donc l'équinoxe, et ce sera aussi l'occasion de célébrer la fête des planétariums qui a lieu toujours donc, à cette période-là, partout en France. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre. Donc il y a une autre programmation qui aura lieu donc, à partir de janvier. Donc vous trouverez les programmes qui seront distribués à partir du mois de janvier. Et entre-temps aussi, un petit peu de promotion, il y a des stages d'astronomie. Donc si vous voulez en savoir plus sur l'observation, sur comment utiliser un télescope, donc je propose deux stages. Donc un, on va dire pour les adultes, parce que c'est un stage qui dure sur toute une journée. Ce sont les stages étoiles. Donc du premier niveau initiation jusqu'au troisième niveau qui est acquisition d'image. Et pour les enfants, à partir de entre 8 et 12 ans, il y a les formules Petit Ours qui sont des modules de 2 heures. Voilà. Bien, donc à présent, je vous remercie et je vous souhaite à une prochaine fois. Donc, voilà. Merci.